Le thème de la méditation ce matin, c'était déjà à nous préparer pour Noël. Bon, Noël, c'est pas seulement décembre, hein. Noël, c'est toute l'année, hein. C'est le don de Jésus, c'est pour nous tous. Et l'étude que j'ai ce matin n'est pas dans le thème de Noël. Parce que on va parler du diable. Mais il était présent à Noël. Oui, il était présent. Et il est présent aujourd'hui. Nous allons lire un verset dans Matthieu chapitre 4, le premier verset. Matthieu chapitre 4 et au premier verset. Juste le premier verset. Il nous dit... Donc Matthieu 4, verset 1, il nous dit « Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » On vient de vivre une expérience extraordinaire, unique. Alors que Jésus s'alignait avec les autres pour être baptisé par Jean, mais quand lui est sorti de l'eau, eh bien, l'esprit, comme une colombe, est descendu. Je fais remarquer que c'est comme une colombe. Il ne dit pas une colombe est descendue, il dit qu'il est descendu comme une colombe, c'est-à-dire doucement, comme une colombe atterrie. L'esprit est descendu sur Jésus et une voix s'est fait entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Une scène extraordinaire. Il n'y en a pas eu d'autre dans l'histoire de l'humanité. Mais juste après cela, eh bien, nous avons cette parole. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'était la volonté de Dieu. C'était nécessaire. Pourquoi? Et si Jésus doit être tenté par le diable, devrions-nous être étonnés que nous soyons tentés par le diable? Le premier Adam, qui, contrairement à Ève, n'a pas été séduit, nous dit l'épître à Timothée, il a été placé dans le jardin et, alors qu'il se trouvait dans ce jardin parfait, il a été tenté par le diable. Et le résultat a été l'échec total. Le second Adam, le dernier Adam, Jésus, est conduit dans le désert pour être tenté. Mais là, eh bien, c'est la victoire totale. La désobéissance du premier Adam met toute la race humaine sous la condamnation. Et à partir de ce moment, la mort règne parmi les hommes. Mais par l'obéissance du second Adam, Jésus, la justification s'étend à tous les hommes. Celle qui donne la vie éternelle à celui qui demande. L'épreuve du premier Adam révèle la faiblesse de l'être humain. Même dans une situation de perfection, même dans une situation d'abondance, tenté, il chute. Après la dernière guerre mondiale, ici en Europe, on s'est dit, oui, mais... C'est parce qu'il y avait la misère, c'est parce qu'il y avait la pauvreté, il y a tout ça, c'est pour ça qu'il y a la guerre. Mais quand l'homme pourra être soulagé, c'était l'époque où on faisait des grandes découvertes, on avait des machines pour soulager l'homme, on faisait des découvertes dans la médecine, on pouvait protéger l'homme. Et on s'est dit, l'homme deviendra bon quand la vie sera plus facile. Vous êtes là pour constater... Je pense que vous n'avez pas besoin de réfléchir longtemps pour rendre compte que La violence, elle est dans les foyers, elle est dans le métro, elle est entre les nations, elle est au niveau universel. Et la surface de la Terre ne suffit pas. On a même trouvé les moyens de faire partir les armes dans l'espace pour pouvoir bien faire nos guerres. C'est pas parce que c'est dur, parce qu'il y a la souffrance, et ce n'est pas parce que le contexte est parfait que l'homme ne peut pas être tenté. L'homme est faible. Mais lorsque Jésus a été tenté et qu'il a eu la victoire, nous avons pu constater sa force. Et sa force, eh bien, nous rassure et le qualifie pour devenir le sauveur du monde. Et comme nous venons de le lire dans Luc chapitre 2, on a fait référence à cela. L'ange a apparu au berger, il a dit, « Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Le premier Adam était faible. Parce qu'il était faible, nous qui sommes ses descendants, nous aussi nous sommes faibles. Le second Adam, né d'une femme, était fort. Et il peut être notre sauveur pour ceux qui le désirent. Nous avons chacun et tous échoué assez souvent pour nous rendre compte que nous sommes faibles dans ce domaine. En fait, vous savez, on n'a pas besoin même d'une grande tentation. Parfois, il suffit de voir les chocolats sur la table. Parfois, il suffit qu'il y ait quelque chose qui passe sur l'écran. Et tout d'un coup, on est parti. On est vraiment faible. Et donc, la Bible déclare, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Romains 3, 10. Mais, la grâce de Dieu nous propose un sauveur, Jésus-Christ. La tentation est là, et elle révèle notre faiblesse, la faiblesse de chacun. Et la faiblesse de l'homme se réduit à trois domaines qui sont mentionnés dans la Bible. Vous savez, si on veut résister à un ennemi, il est important de prendre le temps d'étudier l'ennemi. Et donc, c'est un peu ce que nous allons faire. Et donc, il y a trois domaines. Et je vous invite à regarder dans le passage qui se trouve dans 1 Jean, chapitre 2, verset 16. 1 Jean, la première épître de Jean, chapitre 2. Et au verset 16, je commence à lire au verset 15 pour avoir le début de la phrase. 1 Jean 2, 15 et 16, il nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde... » Et voilà en quoi se résume le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Voilà les trois domaines, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Finalement, tout se résume par ces trois catégories, ces trois domaines. Et toutes les tentations, tout ce que l'homme peut trouver, tomber, eh bien, est là-dedans. Les convoitises de la chair, les désirs de la chair, la convoitise des cieux, ce que je vois et je désire, l'orgueil de la vie, alors là, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est que l'orgueil. Hein. Et ça n'a aucun rapport avec la nationalité, ni les origines, ni le statut social, l'orgueil est là. On le voit dans nos tout petits anges qui naissent dans nos maisons, jusqu'au... Vous avez entendu parler d'un problème chez l'UMP, là ? C'est partout. Ève, quand elle a été tentée, elle a succombé dans les trois domaines. Il nous dit dans Genèse chapitre 3, il nous dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Convoitise de la chair. Qu'il était agréable à la vue. Convoitise des yeux. Et propre à donner du discernement. Vous serez comme des dieux. Convoitise l'orgueil de la vie. Elle a chuté dans tous les trois. D'un coup. Alors qu'elle n'avait jamais connu le péché. Nous, déjà, on part avec un handicap. On a déjà le péché en nous. Elle n'avait jamais connu. Et elle a pu chuter dans tous les trois. Jésus, lui aussi, a été tenté, hein, justement, dans ce Matthieu chapitre 4. Jésus a été tenté dans ces trois domaines. Il lui dit, pour la convoitise de la chair, Satan vient, il dit, écoute, prends ces pierres et crée du pain pour nourrir ton corps. Il est tenté, il convoitise des yeux parce que il dit, il prend Jésus en haut du temple, il dit, regarde, tu vois tout ce monde-là? Eh bien, jette-toi comme ça, à la dernière minute, un ange viendra te récupérer. Et tu te feras pas mal, et les gens vont voir ça. Oui, convoitise des yeux. Ce que le monde va voir. Et ensuite, Satan le prend et là, il lui fait voir tous les royaumes de la terre. L'orgueil de la vie. Et lui dit, si tu t'agenouilles et tu m'adores, je te donne tout cela. Ce sera pour toi. Et chaque fois, Jésus a résisté. Et il a été victorieux. Et c'est le diable qui est reparti. Bredouille. Tous sont tentés. Mais être tenté n'est pas un péché. Il n'y a que celui qui est mort qui ne peut pas être tenté. La question, c'est maintenant, comment est-ce que la tentation produit le péché? Et là, je vous invite à regarder dans Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1, au moins, il n'y a pas de secret. Le mécanisme est là. Il est tout simple. Et on est tous tombés dedans plus d'une fois. Jacques, chapitre 1, je lis les versets 13 à 15. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, il n'a pas dit s'il est tenté, il dit lorsqu'il est tenté. Tous, on sera tenté. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Aucune tentation ne trouve son origine en Dieu. Dieu ne nous tente jamais pour nous faire tomber dans le péché. Mais il nous dit, verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Le point faible est chez nous, est en moi. C'est ma convoitise. » Tout à l'heure, on a parlé du chocolat. C'est sûr que si j'aime le chocolat, et j'ai un gendre qui vient de Suisse, et il connaissait mon point faible, il savait comment avoir ma fille. Chaque fois qu'il est venu, il y avait du chocolat. Ça a marché. Si on l'aime, on peut être tenté. Si on ne l'aime pas, on dit en français, je crois, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Hein, ça veut dire quelque chose. Quelqu'un a remarqué ça un jour. Il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, le désir, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. C'est pas le fait d'être tenté, c'est pas le fait de voir le chocolat qui est péché. C'est le fait que quand je le vois, au lieu de me détourner, je continue à regarder, je dis, ouais, ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Puis après tout, oui, ça fera pas de mal. Puis ouais, je travaille avec moi, mon désir, et finalement, et puis je le prends. Je mange. Et après, demain j'ai rendez-vous avec le médecin. Ah, il va me demander si j'ai mangé du sucre. Oui, mais c'est tout simple. C'est ça le mécanisme. C'est ce qui est arrivé à Achan lors de la prise de Jéricho. Quand enfin on le place devant le peuple et devant Josué, il confesse, il dit « J'ai vu dans le butin un manteau de chinéard et j'ai vu des pièces d'or et j'ai vu un lingot, j'ai vu. » Oui, mais bon, d'autres ont vu beaucoup de choses aussi. Mais il dit « J'en ai eu envie. » Là, c'est la convoitise qui commence à travailler. Et dit, et je les ai pris. Josué 7, 21. J'ai vu, j'en ai eu envie, j'ai pris. Et c'est un homme qui a fait ça en cachette. C'était un secret, personne n'a su. Il a réussi à prendre ça, le cacher dans sa maison sans que personne le voie. Seul problème, c'est qu'il a oublié que Dieu voit tout. Vous savez, si vous avez vous pouvez avoir un péché secret que personne ne connaît, même pas votre épouse. Mais c'est pas pour ça que Dieu ne voit pas, et c'est pas pour ça que ça n'affecte pas votre vie. Il y a des choses qu'on peut voir sur un écran d'ordinateur, dans la chambre, seul. Personne ne sait ce qu'on voit. Et puis on arrive, et puis on essaie de continuer la vie chrétienne. Sachez que si ça, c'est là, votre vie spirituelle sera affectée même si personne n'est au courant. Prenez du poison en secret, vous croyez que ça ne va pas affecter votre santé? Vous avez un problème avec quelque chose qui déplaît à Dieu, vous le savez, mais continuez chaque fois. Vous pouvez être diacre, vous pouvez être pasteur, vous pouvez être ce que vous voulez, mais ça va affecter votre vie. Ça va ressortir dans votre comportement. Et je vous assure que bientôt, vous commencez à avoir des problèmes avec les gens. Et puis, bientôt, on dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu t'irrites pour n'importe quoi. Et personne ne comprend pourquoi. Mais c'est que le poison travaille. Et détruit. Je suis bien placé pour savoir que combien de couples ont été mis en danger par un péché secret. Mais c'est, oui, voir David, le roi, David qui avait eu une telle communion avec Dieu, qui a eu de telles expériences, mais un soir, il se promène sur le toit de sa maison, et il nous dit dans 2 Samuel 11, il nous dit, il aperçut. Il s'est renseigné sur et il a fait venir. Voilà. Et sa vie, sa famille en a souffert dorénavant. L'épée n'a pas quitté sa maison. Et pourtant, c'était secret. Mais c'était là. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer plus longtemps, de comprendre le mécanisme. Et maintenant que nous avons compris comment se passe la tentation et la consommation en péché, eh bien, j'espère qu'aussi vous comprenez que le premier barrage à la tentation, c'est de ne pas voir. Je mets « voir » entre guillemets parce que c'est dans le mot « voir », c'est toutes les sensations, c'est toutes les l'imagination, voir, c'est toucher, sentir. Et c'est pour ça que c'est très important dans nos relations les uns avec les autres. Hein, c'est attention le toucher, surtout avec le sexe opposé. faisons attention à comment nous habillons pour ne pas lui faire voir ce qui pourrait le tenter. Il y a assez dans le monde, c'est pas la peine qu'on le retrouve encore dans l'Église. Vous savez, il est impossible d'être tenté par ce qui ne stimule pas un désir en nous. Mais dès qu'il y a quelque chose, et nous avons des faiblesses que tous ont, et il y a des faiblesses que certains ont, et nous devons les respecter. Moi-même, c'est Job qui disait, j'ai fait un vœu avec mes yeux, ne pas porter mes yeux sur une jeune fille. Jésus a dit, pas celui qui voit une femme, mais celui qui, c'est le regard prolongé. Et il sait où ça mène. Je vous dis, qu'il soit connu ou qu'il soit secret, le péché et la tentation, le domaine de tentation, pouvait avoir un squelette dans un placard que personne ne connaît, mais c'est de la pourriture qui est là. Et ça empoisonne la maison. Je prends une citation d'une prédication que j'ai trouvée sur le net. Et je prends juste un paragraphe. Il dit « C'est parfois difficile de supprimer les mauvais fichiers du disque dur de notre cerveau. Mais nous pouvons réduire le nombre de nouveaux fichiers nuisibles que nous y stockons. Nous pouvons aussi ouvrir davantage de bons fichiers. Plus nous remplirons notre esprit des choses pures, plus notre pureté et notre résistance à la tentation seront grandes. Quand les mauvaises pensées surgissent, nous les corrigeons et nous les remplaçons par la vérité divine. Martin Luther disait « Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de tourner au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. » Je pense que vous comprenez l'image. Il y en a qui n'en ont pas beaucoup, mais comprenez l'idée. Nous ne pouvons pas empêcher le monde de projeter 1000 images et idées malsaines vers nous, mais nous pouvons les empêcher de s'installer dans notre esprit. Nous pouvons les en chasser immédiatement. Et fort celui qui reconnaît sa faiblesse et qui prend les mesures nécessaires pour éviter la convoitise, que la convoitise ne soit consommée. Et 1 Corinthiens 10, 12 dit « Et que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. » Si je pense, je dis « Non, mais moi ça m'arrivera jamais. » Eh bien, ce sera certainement le prochain. Donc, nous avons vu que la tentation révèle la faiblesse de l'homme en général. La tentation révèle notre faiblesse. La dernière fois que vous avez commis un péché, est-ce que c'était quelque chose qui était venu difficilement ou c'est venu facilement? Donc, hop, je me suis trouvé dedans. Ben, ça veut dire que je suis vraiment fragile. Et il faut être attentif. Et il faut prendre des mesures. Oh, il y a ceux qui disent, mais j'ai demandé à Dieu de d'empêcher que je sois tenté. Et il n'a pas répondu à ma prière. Et depuis quand est-ce qu'il a promis de ne pas nous empêcher d'être tentés? Le problème, c'est notre cœur. Et la tentation menace celui qui n'est pas vigilant. Là, je vais vous donner quelques passages, on ne va pas les développer à fond, mais regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 7, des points de faiblesse où il faut faire attention. 1 Corinthiens chapitre 7, et je lis les versets 2 à 5, je crois que je n'ai pas besoin d'expliquer, vous allez comprendre. 1 Corinthiens chapitre 7. Et versets 2 à 5. Il dit toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et ça c'est pas seulement une pension alimentaire, hein, c'est physiquement aussi, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne nous privons point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, c'est-à-dire que les deux le veuillent, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Pas parce qu'on est fâché, parce qu'on va prier. Puis, retournez ensemble de peur, et voilà, regarde, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Vous savez, les familles chrétiennes sont attaquées. Et si on ne remplit pas la fonction que Dieu nous donne, le mariage est une belle chose. Et nous devons la vivre comme Dieu l'a prévu, pas comme le monde le pratique. Il sait même plus ce que c'est que le mariage maintenant. Il faut revenir à Genèse chapitre 2 et 3 pour voir ce que c'est que le mariage. Mais il dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Parce que quand vous vous privez l'un de l'autre et que ne vous réglez pas le problème qui vous éloigne l'un de l'autre, eh bien Satan, il ne sera pas loin. À lui, il remarque. Il remarque même avant que les enfants remarquent, il remarque même avant que les voisins remarquent, avant que l'Église remarque, le diable, il a déjà remarqué. Et s'il trouve de l'espace entre deux personnes, monsieur et madame, s'il trouve de l'espace, il rentre là-dedans. Et puis il fait son petit business. Et tout le monde en souffre. Et puis bon, c'est en général, c'est très avancé avant que le pasteur ou les anciens de l'Église l'apprennent, parce que tout le monde veut couvrir. Et alors c'est très avancé. Et souvent quand on en apprend, on a décidé de divorcer. Ah bon, déjà? Ah non, mais bon, c'est quelque chose qui... Il dit, attention, dans le couple, le diable y joue là. C'est un domaine où le diable joue. Parce que nous sommes faibles, chacun est faible. Et surtout dans notre monde occidental, tout s'y prête pour faciliter la destruction du mariage. Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Un autre domaine. Éphésiens 4, 26 et 27. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Il dit, vous vous mettez en colère avec quelqu'un et vous ne réglez pas rapidement, bientôt les choses se détériorent, ça se détruit, les relations se détruisent, la discussion se détruit, les pensées, finalement tout devient suspect, et dit le diable rentre là-dedans et il détruit ce qui était qu'une petite chose à un certain moment, mais parce que ça n'a pas été réglé. Et bien tout d'un coup, on a ouvert une grande porte au diable. On dit, bienvenue, monsieur Satan. Je veux que tu te mettes au travail, fais ce que tu sais bien faire. En général, on est en train de penser à nos droits. Moi, je n'ai pas été respecté, moi, je n'ai pas été écouté, je n'ai pas ici, ceci, cela. Je suis en train de penser à moi, l'orgueil de la vie. Et je ne pense même pas au risque de ce que Satan pourra faire dans cette situation. Et éventuellement, ça met une gêne pour les amis de l'un et de l'autre. Après, il dit, mais nous, on est amis des deux, et puis vous ne parlez pas, comment on fait? Et puis après, c'est une gêne pour madame, parce que elle a rien. Puis le mari dit, moi, je parle plus à cette date, toi non plus. Ah ben, mais écoute, on est fâché. Ah bon, alors, et les enfants, hein, surtout pas, hein, vous parlez pas avec. Et après, ou bien c'est dans l'église, ou c'est, vous savez, le diable, il rentre là-dedans et il vous fait un bazar. Et vous savez, ce genre de truc, eh ben, Dieu, Satan, il regarde ni la nationalité, ni à la culture, ni à rien du tout. Moi, j'ai trouvé ces situations dans tous les pays que j'ai visités. Parce qu'on est tous descendants d'Adam, et ça se passe exactement pareil. Celui qui me dira « ça n'arrive pas dans mon pays », je dirai « est-ce qu'il y a des menteurs chez toi ?» De Timothée, chapitre 2. De Timothée, chapitre 2. Il y a une situation d'un jeune pasteur, Timothée, qui se trouve à Éphèse, à l'église d'Éphèse. Et puis dans l'église, il y a des gens qui sont tout le temps en train, avec leurs discussions théologiques, leurs discussions de ceci, cela, en train de créer des problèmes. Ils ont une grande connaissance, ils ont lu beaucoup de choses, ils ont réfléchi, ils ont pris beaucoup de temps à penser à toutes sortes d'idées. Et alors, c'est les grandes discussions. Alors, verset 14, Paul dit à Timothée, il dit, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots. Vous marquez, disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Verset 16, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Voilà où ça traîne. Et leur parole rongera comme la gangrène, comme l'infection. Et il dit, il y a même des exemples de ce nombre, sont Hyménée et Philette. Il dit, évite les discussions de mots. J'ai sauté un verset là, c'est le verset 15. C'est parce qu'il m'en contraste. Les disputes de mots d'un côté, verset 15 dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. » Voilà. Il y a les disputes de mots et il y a celui qui dispense droitement la parole de vérité. C'est deux choses différentes, deux activités différentes. Les deux peut-être se lancent les mêmes versets, mais dit Timothée, ne rentre pas dans les disputes de mots, mais dispense droitement la vérité. Et nous ne devons pas nous laisser influencer par ces gens qui sont toujours prêts à discuter. Vous savez comment reconnaître ces gens qui discutent beaucoup ? C'est qu'ils discutent de tout dans la Bible. Hein, mais jamais avec l'intention de faire des progrès dans leur vie personnelle. Ils discutent beaucoup, mais ils sont pareils. Vous voyez quelqu'un qui ne fait pas de progrès dans sa vie spirituelle, mais qui veut vous enseigner, qui veut vous apprendre des choses, dites celui-là, c'est des disputes de mots. Parce que celui qui vraiment cherche la vérité, quand il parle de la parole, lui-même se l'applique en premier. Et ce qu'il dit, c'est pour l'édification. Comment agir dans ces situations? Il nous dit au verset 22, donc de Timothée 2, 22, il dit « Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix. » Alors là, vous avez éliminé celui qui fait les disputes de mots. Qui discute pour discuter. Recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Choisis bien ta compagnie. Verset 23, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, être affable pour tous, c'est-à-dire il n'insiste pas sur le dernier mot. Oui, c'est, en général, c'est pour ça qu'une dispute, ça continue, parce que chacun, il veut être le dernier à dire quelque chose. Je crois que c'est Salomon qui disait dans l'un de ses proverbes, « Faute de bois, le feu s'éteint. » Ah ben, jette plus de bois dans le feu. Hein? Il y en a qui ils sont là, et où des fois, il y a une troisième personne qui est là et puis qui verse de l'huile. Ah, ces gens-là, il faudrait les enfermer en prison pour de bon. Hein. C'est des gens qui, il vient comme s'il est innocent, puis il met juste un petit mot, ça flambe, et puis il s'en va, puis il fait un tour, et il voit que ça baisse un peu, il ajoute un petit quelque chose. T'as vu ce qu'il t'a dit? Ah, ces gens-là. La manière dont vous avez ri, je sais que vous avez compris de qui je parle. Hein. Il dit, il doit, verset 25, je continue, verset 24. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire être affable. Pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Oh, il est doué de patience. C'est pas ce que de temps en temps il en trouve parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il doit redresser avec douceur les adversaires, pas physiquement, hein. Ce n'est pas en donnant une gifle qu'on redresse les frères. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance, voilà l'intention de celui qui a le cœur droit. Parce que tout ce qu'il fait, c'est avec l'intention que la personne se donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, non pas les discussions de mots, et que revenu à leur bon sens, ils se dégageront, ils se libéreront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Finalement, parfois ça peut être stimulant de rentrer dans les discussions qui ne mènent nulle part, mais en fait ce sont des pièges de Satan qui il se sert de cela. Pour nous mettre sous son contrôle. Et nous, on est tout content de ce qu'on sait, mais finalement, on est en train de s'enfermer dans une cache. Un Timothée chapitre 3. Versets 6 et 7, 1 Timothée 3, il parle de les responsabilités spirituelles dans l'Église et justement il est en train de parler de cette responsabilité d'ancien dans l'Église. Et les versets 6 et 7, il dit « Il ne faut pas qu'il soit, donc cette personne candidate à être ancien, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. » Il dit, ne l'exposez pas. Il n'est pas à la hauteur. C'est un nouveau converti. Ne lui mettez pas dans une situation qu'il ne peut pas contenir parce que l'orgueil va jouer et puis après vous allez le détruire. Rendez-lui service de ne pas l'avancer trop rapidement parce que vous allez le détruire. Vous savez, c'est difficile quand tout d'un coup on a quelque chose de grand. C'est difficile de rester humble. Je viens d'acheter une voiture neuve. C'est difficile de ne pas penser. J'espère qu'ils vont voir que j'ai une voiture neuve. C'est l'orgueil, il est là. Et ça monte pour un rien. Il dit... Ne l'exposez pas inutilement. Verset 7, il dit, il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Le diable a des pièges. Et il dit, s'il n'a pas un bon témoignage, déjà dans sa famille et dans son travail, déjà il ne se comporte pas comme un chrétien, ne le mettez pas en responsabilité dans l'Église. Vous allez le forcer à devenir un hypocrite. Puis les hypocrites, ça ne donne rien de bon. Et bien sûr, vous connaissez Éphésiens chapitre 6 où il parle de l'armure et il nous dit « revêtez de toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable ». Je ne vais pas développer cela, mais il dit « et il faut se préparer, il faut s'armer ». Dites « mais je prie Dieu qui me protège ». C'est pas ça qu'il a dit, lui. Il a dit « revêt l'armure, entretiens l'armure pour pouvoir résister aux ruses du diable ». Alors, ne cherchons pas à faire autrement. Ça fait très spirituel de dire « mais moi je prie que le Seigneur me protège ». Il dit « tu vas couler comme les autres ». Tandis qu'il dit c'était ce que, quand Achan a péché dans Josué 7, Josué s'est jeté par terre et Dieu, pourquoi tu nous as fait venir ici? Pourquoi tu nous exposes comme cela? Et tout le monde va, tous les Cananéens vont nous tomber dessus maintenant. Pourquoi tu nous as fait venir ici? On était tranquille de l'autre côté. Et vous savez, il était en train de prier. Dieu, vous savez comment il a répondu? Il a dit, lève-toi. Il dit, il y a le péché dans le camp, tu vas le régler tout de suite. Sinon, je ne suis pas avec vous. Hein, ce n'est pas la peine d'aller prier, je vais jeûner, je vais mettre de la musique chrétienne. Non. Il dit, lève-toi et règle le problème. Vous savez, l'apôtre Pierre, disciple, nous dit dans Matthieu 16, tout d'un coup, il a une révélation. Dieu lui fait dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, ah, le Père, il t'a révélé ça. Après, Jésus commence à parler, il dit, vous savez, je vais devoir aller à Jérusalem, et puis je vais être mis à mort, tout ça. Et Pierre, tout d'un coup, maintenant, celui qui est l'homme qui est toujours inspiré, hein, il dit, ah non, Dieu ne plaise, Seigneur. Et Jésus répond, arrière de moi, Satan. Oh là, c'est... tout d'un coup, d'un moment, il est en train de parler, inspiré de Dieu. À un moment, il est utilisé par Satan pour essayer de détourner Jésus, de tenter Jésus de se détourner de la croix. Pierre, c'est celui qui dit à Jésus, « Moi, même si tous t'abandonnent, moi, jamais !» Et Jésus lui dit, « Pierre, Satan a voulu te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, et heureusement pour toi. » Parce que quand Jésus a prié pour lui, même en priant pour lui, il a quand même renié le Seigneur 3 fois. Imaginez si Jésus n'avait pas prié pour lui. Et alors, Pierre commence à avoir de l'expérience avec le diable, il dit, mais ah, le diable, il est là, hein. Et c'est lui qui, le vieillard, dans son épître, eh bien, c'est lui qui nous dira, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il dit, maintenant, j'ai pris de l'âge, et puis je vois que c'est pas parce que j'ai de la personnalité, c'est pas parce que j'ai fait une bonne expérience avec le Seigneur, c'est pas parce que... Il dit, c'est pas ça. Il dit, le diable, il est là tout le temps, et il rôde. On ne peut pas l'empêcher de rôder. Mais on peut être assez près du berger pour qu'il n'ose pas avancer plus près. Dites, ah mais je croyais que 1 Corinthiens 10, 13, ça dit que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Alors si je suis tombé, c'est parce que Dieu a permis que je sois tenté au-delà de mes forces. Il dit, oh, non. Il dit, ça veut dire que tu n'as pas pris les mesures nécessaires qui étaient à ta disposition pour résister à la tentation. Tu t'es exposé inutilement. Vous ne pouvez pas mettre votre main dans le feu et dire, protège-moi, Seigneur, du feu. Hein. Mais... Daniel a été jeté, c'est les frères Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans le feu. Et là, ils étaient protégés. Eux, ils avaient fait le nécessaire pour ne pas chuter. Ils avaient refusé d'adorer l'idole. Là, Dieu dit non, là, je vous protège. Mais si, bêtement, tu tentes Dieu et tu te jettes dans la situation où tu ne prends pas les mesures nécessaires, dis, écoute, tu encaisses. Dieu, dans sa grâce, il ramasse les morceaux, mais la brûlure, elle est là. Donc, ne priez pas que Dieu chasse le diable. Mais il nous dit en Jacques chapitre 4, verset 7, on arrive à la fin là, Jacques chapitre 4, verset 7. Au lieu de prier que Dieu chasse le diable, il nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. » Soumettez-vous à Dieu. Je vois que je suis exposé à une situation et je suis trop faible, eh bien je viens, je me mets sous l'ombre de Dieu. Je m'approche de lui. Qu'est-ce que font les poussins quand ils voient venir le chat ? Bon. Ça, c'est seulement dans les dessins animés. Dans la réalité, ils courent jusqu'à la mère poule. Et une fois là-bas, ils regardent. Ils font un cuic. Ça, c'est... Écoutez, nous aussi, il dit, soumettez-vous à Dieu. Et il fuira loin de vous. Et il ne s'envoie pas pour de bon. Même dans le cas de Jésus, il nous dit dans Luc chapitre 4, verset 13, après les tentations dans le désert, il dit, il s'en alla jusqu'à un moment plus favorable. C'est ça qu'il fera avec chacun d'entre nous. Eh bien, vous savez, Satan, il est patient. Il va attendre longtemps. Il va attendre jusqu'à ce qu'il nous trouve dans une situation où on est éloigné de Dieu, écarté, exposé. Et puis là, il apparaît. Oh, il est patient. Parce qu'il veut nous détruire. Il veut nous détruire. Donc, connaissant notre faiblesse, admettons notre faiblesse. Nous sommes très fragiles tout seuls. Nous ne pouvons pas. Diable est plus fort que nous. Mais soumettons-nous à Dieu. Approchons-nous de lui. Mettons-nous sous son ordre. Se soumettre à Dieu, ça veut dire c'est faire sa volonté. Être là où il veut que je sois. Pratiquer son enseignement. Honorer son nom. Je ne cherche pas la gloire pour moi, je cherche la gloire pour Dieu. Il dit, tu te mets dans cette situation-là, le diable, eh ben, il restera et gardera la distance. Il regardera de derrière les buissons, il va attendre. Oui, le diable est là, et nous sommes faibles, et Dieu est là. Et si nous chutons, eh bien nous pouvons reconnaître la situation et venir à Dieu, demander pardon. Et pas seulement demander pardon, mais aussi dire, Dieu, aide-moi la prochaine fois, à être, maintenant que je suis averti, maintenant que... Quelqu'un disait que l'expérience est le meilleur instructeur. Quand on a vécu quelque chose, on s'en souvient plus longtemps. Seulement si on survit. Hein. Et ne nous exposons pas inutilement. Mais Dieu peut nous relever. Et Dieu dira de David, c'était un homme selon mon cœur. Et Jésus dira de Pierre, Pierre, c'est toi qui vas paître mes brebis, c'est toi qui vas paître mes agneaux. Ce que j'ai de plus cher et de plus fragile, je te les confie. Il peut nous restaurer. Nous allons le placer devant le Seigneur, là maintenant. Père Céleste, nous sommes tes enfants et au début de notre rencontre, nous avons vu combien tu nous aimes et ce que tu as fait pour que nous devenions tes enfants. Tu as payé le prix pour nous offrir le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Et par la foi, il nous est possible de devenir tes enfants. Mais Seigneur, maintenant que nous sommes tes enfants, nous avons quand même un ennemi, ton ennemi, celui qui a fait chuter l'homme dans le jardin, c'est celui qui veut nous faire chuter de notre communion avec toi. Père Céleste, nous voulons reconnaître notre faiblesse et nous voulons être sages, c'est-à-dire prendre les mesures nécessaires pour ne pas nous exposer inutilement au péché, afin de pouvoir croître. Seigneur, que nous puissions nous soumettre à toi et par notre soumission à toi et à ta volonté, à ton enseignement, ta parole, en cherchant ta gloire, eh bien, nous pouvons éloigner l'ennemi. Seigneur, tu connais chacun. Tu sais quels sont les secrets, quels sont les points faibles avec lesquels chacun lutte. Tu sais ce qui lui a fait tomber cette semaine ou dans les semaines passées. Seigneur, que chacun prenne les mesures nécessaires pour éviter cela, afin de pouvoir avancer. Seigneur, nous n'avons pas besoin de Hakan dans l'Église, parce que ça freine tout le corps. Père Céleste, j'ai assez parlé. Que ton esprit continue. Au nom de Jésus-Christ et à sa gloire. Amen.